voilà.
On est pas
pour l'enregistrement.
Très bien, je vais recommencer à zéro. Donc, Monsieur Ariav Sinno est actuellement professeur invité à l'École normale supérieure de Lyon pour un mois. Et il a accepté de nous donner deux conférences. La première, donc, sur des problèmes d'exégèse. Monsieur Ariav Sinno est actuellement professeur à l'USJ, donc l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il était anciennement directeur de l'Institut des Lettres Orientales, puis vice-recteur aux études arabes et islamiques de l'Université Saint-Joseph. Il enseigne et il effectue des recherches dans le domaine de la littérature et de la civilisation arabe classique. Son dernier ouvrage, en collaboration, est une encyclopédie des sciences grammaticales. Il est paru à la librairie du Liban. Et je lui donne tout de suite la parole.
Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être venus, vous êtes dérangés. Il n'est pas difficile de mesurer la portée du sujet qui vous est proposé ici. Il traite du livre le plus prestigieux, comme vous le savez, aux yeux de l'islam. Livre incontournable pour toute personne qui voudrait comprendre quelque chose à la religion musulmane. Il essaie aussi d'étudier les méthodes mises en œuvre par les musulmans pour tirer de leurs livres tout ce qui règle leur vie ici-bas comme dans l'au-delà. L'investigation portera sur une centaine d'années, ce qui est déjà beaucoup, où des bouleversements politiques, économiques et socioculturels ont préoccupé la conscience islamique. Mais faute de temps, nous limiterons notre sujet à l'Orient arabo-musulman, aux exégètes qui nous semblent les plus représentatifs et aux grandes œuvres exégétiques. Il y a bien entendu des études partielles, celles-ci ne seront pas examinées ici, malgré l'importance de certaines d'entre elles qui, pour attirer l'attention sur une nouvelle tentative qui se dessine, peuvent très bien être étudiées. Nous serons aussi amenés à simplifier de nombreuses données. En essayant de brosser à grands traits un tableau de l'exégèse coranique ainsi défini. Pour la clarté de l'exposé, je commencerai par quelques préliminaires qui consistent dans un bref aperçu de l'exégèse coranique avant 1850, et cela pour deux raisons. La première, c'est que cette exégèse que l'on pourrait qualifier de classique, de post-classique, donc cette exégèse conditionne l'exégèse ultérieure et la sous-tend. La seconde, c'est que nous serons obligés de renvoyer continuellement à cette exégèse pour voir dans quelle mesure l'exégèse ultérieure arrive à se démarquer d'elle. Pour les musulmans, on le sait bien, le Coran est la parole de Dieu, transmise telle qu'elle par Mahomet. Donc, pour les musulmans, il ne s'agit nullement d'une inspiration. Toutefois, cette parole est incréée pour les uns, c'est le cas du sunnisme, créée pour les autres, c'est le cas pour le mu'tazilisme en particulier. Quoi qu'il en soit, c'est le Coran qui règle la vie des musulmans dans ce monde et leur trace le chemin pour accéder au salut dans l'autre. De bonne heure, les musulmans ont éprouvé le besoin d'avoir des explications sur certaines données coraniques. Il y avait des mots à expliquer, des expressions, des passages concis, des allusions. C'est le prophète lui-même qui venait à leur aide. Puis les compagnons de Mahomet aussi venaient à leur aide et en fin de compte leurs successeurs, les fameux tabi'oun, donc qui représentent la deuxième génération. Ce besoin en explication se développa avec le temps, compte tenu en particulier de l'expansion de l'islam à des domaines non arabes. Les efforts se multiplièrent dès la fin du califat omayyade et le début du califat abbasside. Et l'on profitera de l'éclosion des disciplines religieuses, historiques et linguistiques pour expliquer et commenter la parole de Dieu. Chemin faisant, quatre approches du texte coranique virent le jour. Elles s'organisent en deux couples dont les constituants sont antithétiques. Premier couple, vous l'avez là, c'est ce qu'on appelle le tafsir bil ma'sour et le tafsir bil ra'y. Le tafsir, donc explication puis exégèse, bil ma'sour de asar qui signifie trace. Donc le tafsir bil ma'sour consiste à expliquer le Coran selon les données fournies par Mahomet lui-même, puis par ses compagnons. On ne tarda pas à faire usage dans une certaine mesure de l'apport des successeurs regroupés dans trois centres principaux, la Mecque et Médine dans le Hijaz, ainsi que Koufa en Irak. Quant au tafsir bil-ra'y, et le ra'y c'est l'opinion personnelle, le tafsir bil-ra'y tenait compte de l'opinion personnelle de l'exégète. Condamné en bloc, en particulier dans le sunnisme, par exemple Tabari, puis plus tard Ibn Taymiyyah, une brèche lui fut ouverte par la distinction entre un tafsir bil-ra'y licite ou louable, donc jaiz mamdouh, et un tafsir bil-ra'y illicite ou blâmable, donc haram mazmoum, parce que ce tafsir serait en désaccord avec la doctrine. Ensuite, et c'est là le deuxième couple, nous avons le tafsir à proprement parler et le ta'wil. Le ta'wil de la racine awala qui a comme idée de base premier, le sens de premier. En effet, le ta'wil va distinguer deux niveaux dans le texte coranique, celui du sens apparent qu'on appelle le zahir et celui du sens latent ou caché qui est le batin. Ce sens caché ou bien sens premier serait celui voulu par Dieu. On peut y accéder soit par initiation, l'initiation des imams, comme c'est le cas dans le chiisme, soit par une distinction linguistique, par exemple entre sens propre et sens figuré, ou bien par des explications grammaticales, comme c'est le cas dans le mu'tazilisme. Le tafsir, lui, s'en tient donc au sens dit apparent. Historiquement, ces approches se sont manifestées à travers de nombreuses tendances exégétiques que je résumerai dans le tableau suivant, en prenant en considération deux critères de classification. Le premier critère, c'est l'appartenance doctrinale de l'auteur. Le second critère, c'est celui du thème majeur développé dans le tafsir. Je serai assez rapide pour aborder vraiment notre sujet ensuite. Donc voilà, nos deux critères sont là, appartenance doctrinale et thème prédominant. Je commence par l'appartenance doctrinale. Là, nous avons en premier lieu le sunnisme. Dans le sunnisme, nous avons un tafsir bil-ma'sour et un tafsir bil-ra'y. Mais attention, c'est le ra'y jaiz. Et comme exemple, ce ne sont que des exemples, Tabari représenterait le Ma'sour et Razi le Ra'ijaz. Pour ce qui est du kharijisme, là, on peut insister, nous le ferons, sur le kharijisme ibadite dans le Oman et dans le Maghreb, puisqu'il y a des ouvrages d'exégèse qui nous sont parvenus, soit en manuscrit, soit des ouvrages qui ont été publiés. Je passe à une troisième appartenance doctrinale, le chiisme. Là, je ne citerai que les deux grandes écoles, les duodécimans qui croient en 12 imams, représentés par exemple en exégèse par Tabarsi, mais il y en a plein d'autres, Tusi, etc. Et je citerai pour le zaïdisme, je citerai Shawkani, qui est assez tardif. En plus de ces trois appartenances, on peut citer le mu'tazilisme, que représente Abdel-Jabbar. Abdel-Jabbar n'a pas un véritable commentaire, un commentaire entier, mais dans ses ouvrages, il a fait œuvre d'exégète, et on ajoute à Abdel-Jabbar Zamakhshari. Là, nous avons un commentaire entier selon l'optique mu'tazilite. On peut ajouter sur le plan doctrinal le mysticisme, et comme livre à titre d'exemple celui de Soulami, et celui attribué à Ibn Arabi. Pour ce qui est de la philosophie, là, on n'a pas de commentaire complet, mais Farabi, dans certains de ses ouvrages, a fait œuvre d'exégète, il en est d'Avicenne. Je vais passer au deuxième critère, c'est-à-dire au thème qui peut prédominer dans un livre d'exégèse, dans un tafsir. On peut avoir des tafsirs à tendance historique. Historique, je le mettrai entre guillemets, parce que parfois ça tourne au merveilleux, à la légende, etc., avec Sa'labi et Khazin. La tendance linguistique pourrait être représentée par notre mu'tazilite Zamakhshari, mais aussi par Abu Hayyan al-Gharnati. Il ne faut pas oublier la tendance juridique. Je donne quelques exemples. La tendance hanafite avec Jassas, malikite avec Abu Bakr ibn al-Arabi. Attention, ce Abu Bakr ibn al-Arabi n'est pas Ibn Arabi le mystique. Pour les duodécimants, on peut signaler Suyuri. Et pour le zaïdisme, on peut signaler Al-Thulasi aussi. Bon, en fin de compte, on est autorisé à parler d'une tendance qu'on peut qualifier de scientifique, entre guillemets aussi. On en trouve des éléments chez Ghazali dans le Ihya, et surtout dans Suyuti, dans le Itqan, mais nous aurons l'occasion de revenir sur cette tendance, mais il faut faire attention à l'opposition rencontrée par cette tendance. Le principal opposant, c'est Shatibi. Donc voilà un peu pour ce qui est de ce tableau de tendance exégétique dans la période classique. Comme on peut le constater, les anciens exégètes et interprètes du Coran se sont évertués donc par tous les moyens à approfondir leur connaissance du Coran. Comme on vient de le voir, ils ont eu recours aux apports de la lexicographie, de la grammaire, de la rhétorique, de la théologie apologétique, du kalam, de la jurisprudence, aussi bien que ceux de la cosmologie et de la philosophie pour cerner de près le message coranique. Mais leur méthode était tributaire de leur époque. Avec nos yeux d'aujourd'hui, il est facile de repérer le parti pris, les longues digressions et le manque d'esprit critique. Grâce à l'évolution politique, socio-économique et culturelle survenue dès la première moitié du XIXe siècle, on était en droit d'espérer un changement dans les méthodes en cours, des changements de l'exégèse coranique. Car les anciens commentaires étaient glosés à l'époque Et c'est dans ces gloses que les étudiants de l'Azhar, par exemple, recevaient une large part de leur formation. Les commentaires les plus importants composés dans la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe peuvent être classés schématiquement dans les catégories suivantes. En premier lieu, nous avons des commentaires toujours à tendance doctrinale. Nous avons des commentaires à tendance scientifique. Et il y a un troisième point, sur le troisième point, je dirais un mot. Là, nous assistons à une exégèse coranique que je qualifie de plus rénovatrice par rapport à ce qui précède. Je commencerai par les commentaires à tendance doctrinale. Là aussi, nous allons commencer par les commentaires sunnites. Dans le cadre de ces commentaires sunnites, on peut citer d'abord l'ouvrage de l'Irakien Al-Alousi, Ruh al-Ma'ani. C'est une somme, une véritable encyclopédie exégétique qui profite à fond de l'apport des prédécesseurs, sans pour autant faire fi de clairvoyance et d'esprit critique à leur égard. Critique aussi l'usage qu'ont fait les anciens exégètes de la tradition judéo-chrétienne et des récits merveilleux. Mais, il faut l'avouer, on trouve chez lui de nombreuses digressions grammaticales. Une marque du siècle, il utilise les données de la cosmologie pour expliquer certains versets coraniques non sans esprit critique aussi. Dans l'exposé de ses commentaires sunnites, une place importante devra être accordée à Muhammad Abdo et ses disciples directs. La production exégétique de Muhammad Abdo ne s'étend pas à l'ensemble du Coran. Elle est principalement le fruit de leçons professées à l'université d'Al-Azhar, recueillies et publiées par les soins de son disciple Rachid Rida dans la revue Al-Manar. Bref, Abdo appelle au renouveau de l'exégèse coranique à la lumière de la raison, loin des dissensions doctrinales, loin des digressions grammaticales, digressions juridiques, et loin des ambiguïtés textuelles, de détails. On le voit aborder aussi des questions sociales et recourir à l'apport des sciences modernes, susceptibles d'éclaircir le texte. Abdo ne manque pas d'audace, d'où les critiques de détracteurs à son égard. Quant à Muhammad Rachid Rida, disciple de Muhammad Abdo, son œuvre exégétique est plus développée encore que celle de son maître. Mais dans l'ensemble, elle en suit l'esprit par les objectifs visés, les sources utilisées, la méthode suivie et les idées professées. Il en est de même d'un autre disciple de Abdo, Muhammad Mustafa al-Maraghi. Muhammad Mustafa al-Maraghi, dont la production exégétique est limitée. Toutefois, il avait une vaste audience et un public très varié suivait ses leçons, d'où sa grande influence. Donc Maraghi se place dans la lignée de son maître Muhammad Abdo, tout en accordant aux anciens commentaires du Coran plus de crédit que ne l'avait fait Abdo lui-même. Il est permis de conclure que cette école, qu'on peut qualifier d'école réformiste, que cette école a déployé de grands efforts pour renouveler et rajeunir l'exégèse coranique. De son activité, on peut retenir quelques points. Il a usé d'esprit critique vis-à-vis des traditions judéo-chrétiennes reçues par les anciens exégètes et vis-à-vis des traditions islamiques peu dignes de confiance. Il a évité de sacrifier au fanatisme doctrinal et de traiter des ambiguïtés coraniques de détail. Il s'est efforcé aussi de dégager la portée des versets coraniques, de défendre la perfectibilité du Coran et de traiter, à la lumière de ces textes, des problèmes sociaux de la Ummah. Il n'a pas manqué de recourir à la raison dans son approche du Coran et d'adopter des interprétations selon le sens figuré et non pas la lettre du Coran, tout comme les Mu'tazilas. Enfin, il a employé des moyens d'expression, et là c'est intéressant et important, il a employé des moyens d'expression rajeunis en accord avec le siècle. Donc, nous sommes toujours dans la tendance doctrinale, les commentaires sunnites, et là on peut passer rapidement aux commentaires kharijites, puis aux commentaires chiites. Pour ce qui est des commentaires kharijites et de l'époque qui nous intéresse, là nous disposons d'un important commentaire kharijite du Coran composé par Muhammad ibn Yusuf Atfish al-Wahbi. En général, on parle de Atfish. L'auteur est un ibadite, né dans le Sahara algérien et est mort en 1914. Atfish est redevable à ses devanciers ibadites et non-ibadites, je cite Zamakhshari, le Mu'tazilite et même le Baydawi sunnite. Mais Atfish faisait aussi usage de son opinion personnelle. Il s'agit là d'un commentaire riche en explications grammaticales, rhétoriques, théorique et juridique, et en variante de lecture coranique, les qira'at. Mais il accorde un crédit important aux traditions merveilleuses d'origine judéo-chrétienne. Dans ses opinions, il est aisé de voir l'influence mu'tazilite. Il reste à noter qu'il se fonde sur les versets du Coran pour étayer la doctrine ibadite. Et on le voit s'emporter contre les sunnites et les autres confessions islamiques. Pour ce qui est des commentaires chiites, je me limiterai à deux commentaires représentatifs. Ce sont deux commentaires duodécimants que je vais citer. L'auteur du premier est mort en 1827, donc il précède notre période, mais vous me permettrez de dire un mot de ce commentaire parce qu'il est très utilisé dans le chiisme de nos jours. Donc, je commence par le commentaire de Abdallah ibn Muhammad Rida Shubbar al-Alawi. En général, le commentaire est connu sous le nom de Shubbar, le commentaire de Shubbar. Shubbar est un personnage important dans son milieu, auteur de livres nombreux. Son tafsir n'accepte comme autorité que les gens de la famille du prophète, donc les Ahlul Bayt. Et il s'en prend aux compagnons du prophète. Et comme c'est le cas des commentaires chiites, il dénote aussi une influence mu'tazilite. Bref, c'est un commentaire concis, c'est pourquoi il est souvent utilisé de nos jours, donc c'est un commentaire concis et d'accès facile, donc il est utile en son genre. Ensuite, on peut mentionner le commentaire de Sultan Ibn Muhammad Ibn Haydar al-Khurasani, le commentaire de Khurasani. Ce commentaire représente l'interprétation mystico-philosophique dans la tradition chiite duodécimane. où l'auteur s'adonne à l'interprétation allégorique. L'auteur, là aussi, s'emporte vivement contre l'islam sunnite, malgré les emprunts que l'on trouve chez lui d'auteurs sunnites comme Baydawi. Donc voilà brièvement pour ce qui est des commentaires à tendance doctrinale. On peut tout de suite passer aux commentaires à tendance scientifique. L'exégèse dite scientifique est très développée à l'époque qui nous intéresse, et même à l'heure actuelle. On en traite dans un cadre apologétique tendant à justifier la véracité du Coran et sa pérennité. Donc, le Coran, d'après ses auteurs, convient à tous les temps. Donc, cette exégèse va étayer le dogme de la perfectibilité coranique, Coran inimitable, le dogme de l'Irgèse. Pour les tenants de cette tendance, dans sa forme la plus stricte, le Coran comporterait d'une façon tantôt implicite, tantôt explicite, toutes les sciences connues de nos jours, ou même inconnues encore. Par ailleurs, ces sciences contribuent à expliquer la signification des versets au fur et à mesure des découvertes. Il s'agit le plus souvent, pour cette exégèse, de livres ou d'articles consacrés à la question, sans pour autant constituer des commentaires coraniques complets. Or, il existe, à l'époque qui nous intéresse, un commentaire complet du Coran selon cette tendance. Il a été composé par l'Égyptien Tantawi Jawhari. Tantawi Jawhari est mort en 1940. Il porte un titre révélateur, Al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an. C'est un ouvrage en 25 volumes, publié en 10 ans, de 1922 à 1932. Tantawi Jawhari a relevé dans le Coran 750 versets qui, à son avis, traitent de science. Cela est beaucoup, donc 750 versets contre 150 seulement qui traitent de statut juridique. Alors, après des explications linguistiques rapides, Tantawi Jawhari passe à de longs développements où il est question des acquisitions scientifiques mentionnées dans le Coran. Comme Et là, vous le soupçonnez, comme il faisait dire au Coran ce qu'il ne voulait pas dire, la levée des boucliers contre lui ne se fit pas attendre. Il fut critiqué par d'éminents personnages comme Mohamed Rachid Rida, comme Mohamed Mustafa al-Maraghi et Mahmoud Chaltout, les deux derniers étant des recteurs d'Al-Azhar. Malgré cela, la tendance scientifique va continuer son chemin. Elle est actuellement très à la mode. Un dernier point à traiter dans ce sens, c'est le point concernant une exégèse coranique plus rénovatrice que les précédentes. À l'époque qui nous intéresse, des auteurs divers on fait la critique de l'exégèse coranique traditionnelle. Mais là, attention, cette critique a été faite dans des livres, dans des manuels, dans des articles. Je vais me limiter à une synthèse en trois points seulement pour vous montrer la portée de cette critique. En premier lieu, on reproche aux exégètes leur partialité doctrinale, et on vient de le voir. On reproche aux exégètes l'usage immodéré qu'ils font des traditions judéo-chrétiennes et l'absence de discernement dans le recours aux traditions islamiques douteuses ou apocryphes. En second lieu, on voudrait alléger certaines prescriptions de la loi religieuse, comme c'est le cas en droit pénal. Par exemple, pour le cas du vol, la peine relative au vol et la peine relative à l'adultère. Alléger aussi certaines prescriptions en droit familial, comme c'est le cas pour la polygamie. En troisième lieu, on voudrait ne plus accorder un grand crédit à certaines croyances, par exemple à l'existence des démons. On va interpréter le démon comme personnifiant le mal, comme le mal. Il en sera de même pour les djinns. Par exemple, on va trouver une interprétation des djinns. On va dire les djinns, c'est une tribu, et ne sursautez pas, du Maghreb arabe. On trouve cette interprétation aussi. On se montre aussi réticent vis-à-vis des miracles, des multiples miracles attribués aux prophètes. Les tentatives rénovatrices ne vont pas s'arrêter là. En 1947-1948, Mohammed Ahmad Khalafallah, nom important, Mohammed Ahmad Khalafallah, présente en vue de la soutenance une thèse préparée à l'université Fouad Ier, donc au Caire. Cette thèse était dirigée par Amin al-Khouli. Khalafallah voulait appliquer au récit du Coran la théorie des genres littéraires. La thèse fut refusée et son auteur accusé d'apostasie. Le directeur de la thèse lui-même a été attaqué aussi, Amin al-Khouli. Cette approche littéraire, initiée par Amin al-Khouli, sera poursuivie dans une certaine mesure, par Aïcha Abdelrahman dans At-Tafsir al-Bayani lil-Qur'an, dont la première édition date de 1962. Là, comme nous touchons à la fin de ce tableau, je voudrais noter rapidement aussi, et vous le savez, que Sayyid Qutb a rédigé en prison de 1954, donc légèrement après notre période, de 1954 à 1964, donc 10 ans en prison, parce qu'il était affilié aux frères musulmans d'Égypte au temps de Nasser. Bref, donc il a rédigé en prison et avant d'être exécuté en 1966 son volumineux commentaire coranique Fi Zilal al-Qur'an, où il promeut une réforme politique, une réforme sociale. Vous allez me dire, qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout ce tableau-là, le tableau donc de l'exégèse coranique de 1850 à 1950, et surtout si on le compare aux tendances classiques, aux tendances anciennes. L'exposé que je viens de faire n'a pas d'autre ambition que de dresser un tableau de l'exégèse coranique de 1850 à 1950. Mais il est possible d'arriver à partir de ce tableau à quelques caractéristiques. Je vais me limiter, dans les minutes qui me restent, je vais me limiter aux caractéristiques les plus saillantes. Il va sans dire que cette exégèse a profité de l'apport des auteurs anciens, Donc, elle est redevable aux auteurs anciens. On l'a vu déjà en parlant d'Alousi, par exemple, en parlant de Marari, qui a fait un retour en arrière par rapport à son maître Mohamed Abdo. On a vu Atfish, etc. Mais cette exégèse a subi, dans une part importante, l'influence de l'époque. L'influence de l'époque à travers des contacts avec l'extérieur et spécialement avec l'Europe. Elle porte donc à plus d'un titre la marque du siècle. Mais dans un souci de respecter la tradition, elle s'est retournée aussi vers le passé pour y puiser ce qui concordait avec la nouvelle conjoncture. Et elle s'est adressée à l'école mu'tazilite, parce que l'école mu'tazilite prônait des idées que l'on pouvait exploiter dans le présent, en particulier le rationalisme, la justice divine, le libre arbitre. Certes, le kharijisme et le chiisme avaient subi au cours de leur histoire l'influence mu'tazilite, mais il est remarquable de retrouver encore une fois cette influence dans l'école réformiste sunnite de Mohamed Abdo. Je dis encore une fois parce que l'influence mu'tazilite de Zamakhshari se retrouve dans Baydawi, par exemple. On vient de le voir, appel à la raison, donc, mais aussi il y a le corollaire de l'appel à la raison, j'entends par là l'esprit critique. La critique porte sur de nombreuses pratiques qui était monnaie courante chez les anciens exégètes. La critique apportée, et là c'est un rappel, on l'a vu, on l'a bien expliqué, c'est le recours immodéré et sans discernement aux traditions. Donc, tradition judéo-chrétienne de l'histoire sainte pour expliquer de nombreux passages coraniques. Il en est de même du crédit accordé, et là on l'a bien vu et dans de nombreux commentaires, il en est de même donc du crédit accordé souvent à des traditions islamiques apocryphes. Mais il faut noter que des restes des deux traditions, j'entends par là la tradition judéo-chrétienne et les traditions islamiques apocryphes, donc, des restes des deux traditions se retrouvent chez certains auteurs, de notre époque, comme Atfish. La critique porte aussi sur les dissensions, sur la partialité et le fanatisme doctrinaux remis en cause par Abdo et son école en particulier. Mais malheureusement, ces dissensions-là se retrouvent chez certains auteurs de notre époque, chez Atfish, par exemple, chez Al-Alawi et chez Al-Khurasani. La critique porte encore sur ce qu'on appelle les digressions, donc les digressions de diverses sortes, et notamment là, il vise surtout les digressions grammaticales qui, paraît-il, les gênaient. Mais il reste des digressions grammaticales chez Marari. Mais à côté de ces digressions grammaticales, on n'a pas manqué de critiquer les digressions, ce qu'on appelle les digressions juridiques. Bon, appel à la raison, esprit critique, mais aussi un usage de plus en plus affirmé de l'opinion personnelle, en particulier chez Abdo et son école, et chez l'Ibadit Atfish. De nombreuses marques du siècle peuvent être relever aussi. D'abord, le recours aux sciences modernes, comme la cosmologie pour étayer une exégèse coranique. D'aucuns finiront cependant par verser dans l'exégèse scientifique. Bon. En harmonie avec le progrès scientifique, cette exégèse scientifique fait appel à la science, mais elle fait appel à la science pour appuyer la religion. Et elle finit par faire dire au Coran ce qu'il ne saurait dire. Donc, c'est pourquoi elle a essuyé, comme nous l'avons vu, les critiques de nombreuses personnalités. Toujours comme marque du siècle, et en deuxième lieu, on constate ce qui suit, à travers l'exégèse, on aborde les problèmes sociaux de l'époque, puis les problèmes politiques, et on aborde même des questions épineuses propres au dogme, propres au statut juridique. Enfin, on tentera vers la fin de cette période d'appliquer à l'exégèse de nouvelles approches, comme celles des genres littéraires. Par ailleurs, les moyens d'expression sont revisités. On va sacrifier à la simplicité, on va sacrifier aussi à la concision. Nous avons un exemple chez Abdallah al-Alawi, par exemple. Bref, cette exégèse se place sous le signe du rajeunissement et du renouvellement. Renouvellement, comme vous avez pu le constater, d'une inégale envergure. Renouvellement audacieux parfois, en particulier vers la fin de la période qui nous intéresse ici. Cependant, c'est un rajeunissement et un renouvellement qui seront contrariés et qui ne porteront pas tous les fruits que l'on pouvait en attendre. Mais là, c'est une autre histoire. Je vous remercie.
Merci. Voilà, j'ai quelques petites questions concernant l'exégèse. Il y a des savants musulmans qui utilisent le mot Israïliyat chez quelques savants qui ont recours à ce que vous avez appelé la tradition judéo-chrétienne dans l'explication du texte coranique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme Israïliyat tout en sachant que les oulémas ou les savants musulmans ne renient pas en bloc la croyance des juifs et des chrétiens. Donc, ce mot israélien, où est-ce qu'on peut le mettre dans cet espace de la pensée musulmane? La deuxième des choses, vous admettez.
Alors, pour ce qui est des israélites, là, les auteurs anciens ont fait un grand usage de ces israélites. Parce que, et vous le savez très bien, il y a de nombreux passages coraniques qui font allusion aux prophètes anciens. Donc, là, il fallait expliciter. Et, parce que souvent les auteurs avaient une préférence nette pour le détail. Alors, où puiser ces informations-là? Alors, le meilleur moyen constaté, c'était de revenir à la tradition judéo-chrétienne. Alors, l'attitude des auteurs n'est pas la même à ce propos. Certains se sont montrés laxistes, Alors, j'ai parlé par exemple de Sa'labi avec ce que j'ai appelé la tendance historique, de Khazin, etc. Donc, des auteurs de ce genre-là, mais on peut penser à des anciens comme Wahb ibn Munabbih, etc. On peut penser à ces gens-là qui se sont adonnés, donc sans restriction, à ces Israéliettes. Mais par contre, vous avez des auteurs qui étaient assez rigoristes sur la question. Alors, pour ce qui est de la période post-classique, on peut citer Ibn Taymiyyah. Maintenant, Ibn Taymiyyah est très rigoureux à ce propos et il fait une distinction entre les Israéliettes. Donc, à tel point qu'il condamne le recours aux Israéliettes. Ce qui est intéressant chez les auteurs modernes, c'est qu'ils ont suivi un peu Ibn Taymiyyah dans ce sens-là, parce que pour eux, ces traditions-là n'étaient pas tout à fait véridiques. Et on le sait très bien, dans le christianisme même, il y a une lecture déterminée de cette tradition. La théorie des genres littéraires a été appliquée à cette tradition. Or, les commentateurs musulmans voulaient y voir des données historiques, des données sûres, donc des choses qui se sont passées dans l'histoire. Alors là, pour ce qui est du Maghreb, au sens vaste du terme, les choses sont très intéressantes et il y a beaucoup de détails à prendre en considération. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas traiter cette question. Mais dans l'ensemble, on peut le mettre dans l'école, dans le côté réformiste, si vous voulez. Merci pour les questions.
Remarque simplement, oui. Allez-y. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que la méthode de critique historique qui a été utilisée pour la Bible en particulier n'ait pas été adaptée, sauf dans une période plus tardive avec Nasser Ahmed Abou Zeid?
Il me semble qu'il faudrait chercher la réponse dans la nature du Coran lui-même. Parce que ce qui continue à prévaloir, surtout dans le sunnisme, c'est le Coran incréé. Et là, on pourra faire une petite comparaison avec ce qui se passe par exemple dans le christianisme. Alors, dans le christianisme, on a appliqué donc la théorie, par exemple, des genres littéraires au texte. Mais d'une façon générale, lorsqu'on fait une critique de la personne du Christ, cela fait sursauter dans le christianisme. Regardons un peu les choses du côté musulman. Dans le christianisme, le Christ, c'est le Verbe. Alors, regardons en islam et revenons à ce dogme du Coran incréé, le Qadim. Nous avons là une certaine ressemblance. Donc, cette parole, la parole en question, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui existe depuis toute éternité, qui est dans le Lawh Mahfouz. Donc, si vous voulez, elle est inhérente à Dieu. Donc, c'est très difficile de pouvoir y toucher. Donc, elle est en quelque sorte en dehors du temps et en dehors du lieu. Alors, cette, il me semble qu'une critique historique de ce genre ne peut se faire que dans une optique mu'tazilite, une optique de Coran créé. Alors, je ne sais pas, M. Roman, vous êtes, vous n'êtes pas d'accord avec... Voilà. Effectivement. Mais je crois qu'il y a des pas qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. J'ai pu repérer, par exemple, dernièrement, des commentaires du Coran qui ont reclassé le Coran chronologiquement. Cela était insoupçonnable il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Alors là, il y a eu des essais. Il y a eu des essais en Syrie. Nous avons l'essai de Mohammed Abed el-Jabiri aussi. Donc, ça bouge si vous voulez. Mais quand même, ces efforts sont contrariés par la conjoncture actuelle. Mais tôt ou tard, je crois, ça va arriver. Donc l'élan, là, si vous voulez, de cette exégèse entre 1850 et 1950 n'a pas vraiment suivi son chemin, un chemin naturel, non.
Oui. On se base plus sur la langue que sur la langue en première. Vous avez utilisé la tendance kharijite. Je pense que les ibadites eux-mêmes, puisque c'est des gens qui vivent dans le sud algérien, refusent cette expression. Et ils te disent, nous, on est des, du point de vue de l'Aqida, on est des ibadites, mais pas des kharijites, parce qu'on les accuse, parce que khariji, en arabe, ça vient du mot sortir. Donc, les autres les accusent de sortir de l'essence même de la religion, de l'Aqida. Alors, et quand on lit leur littérature, on trouve que c'est des sunnites comme les autres. Le mot kharijite, je ne sais pas comment vous l'avez utilisé, mais les ibadites eux-mêmes refusent cette qualification. Saïd Khot, vous avez parlé dans cette série de réformes. Je pense que lui, il parle surtout de révolution, parce que lui, il traite toute la société du Jahiliya. C'est une société qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il appelle à ce qu'il y ait un changement radical de cette société. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui lui a valu l'exécution par les autorités égyptiennes, par les révolutionnaires égyptiens du temps de Nasser.
D'accord. Je vous remercie pour vos remarques. Simplement pour ce qui est des ibadites, j'ai fait l'expérience avec des étudiants à l'université, des étudiants qui cette fois viennent du Oman. Alors, on s'est heurté au même problème. Alors, on nous dit, voilà, monsieur, nous sommes le mazhab khamis. Donc il y a le mazahib al-arba'a et nous sommes donc la cinquième école juridique. Et ils refusent carrément d'être appelés des khawarij. Mais vraiment, lorsqu'on fait un peu l'historique des différentes branches du kharijisme, je crois que vous êtes d'accord pour dire que quand même les ibadites sont issus du gros kharijisme. Et s'ils se sont maintenus jusqu'à nos jours, c'est parce qu'ils ont préféré être en paix avec les différents États islamiques, avec les Abbasides, etc. Mais vous avez parfaitement raison, donc ils sont gênés lorsqu'on les taxe de kharijites sans vouloir leur faire du mal. Hein. On dit kharijites sans arrière-pensée. Alors là, ils réagissent. Donc je suis content d'apprendre que c'est la même chose pour le Maghreb arabe aussi. Oui, oui. Madame. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien saisi la portée de votre question. J'ai parlé d'un changement politique, culturel, etc., à partir de la première moitié du 19e siècle. Et nous avons commencé à traiter notre question à partir de 1850. Vous êtes d'accord, je crois, sur le fait qu'il y a eu des changements dans la conjoncture à partir de 1800. Qu'à la période classique, je peux dire que oui. Regardez, pour ce qui est par exemple de l'école réformiste de Abdo, le tafsir al-Manar a joué un rôle important et il continue à jouer ce rôle de nos jours. Regardez pour l'exégèse chiite, j'ai parlé de Shubbar. Shubbar, il est dans les maisons actuellement, donc il est utilisé, on le retrouve dans les maisons. Donc c'est comme le tafsir al-Jalalayn, si vous voulez, pour les sunnites. Il est là, il est présent partout. Donc il y a un impact de ces livres d'exégèse, oui. Merci beaucoup. Ah, demain, c'est autre chose.
C'est pas parce que ça a un rapport avec le programme de la délégation que ceux des agrégations sont intervenus. Au contraire, ceux qui, les étudiants arabes, sont invités.
Ça reste ouvert au public.
Mais là, vraiment, je vous remercie infiniment. Il y a des collègues qui sont venus, j'étais confus. Il y a mon maître qui est là, et je suis vraiment confus. Merci bien. Hein. Vous êtes là venus pour m'appuyer, et je vous en suis redevable. Hein. Merci beaucoup.